Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
À l'Internet, aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire irrésolue, un meurtre quand même weird, mais très triste, très très triste. Et en faisant les recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de photo de la victime. C'est très triste, ça rend les choses, bon, je dirais moins intéressantes parce qu'il n'y a pas de photo du cas. Puis moi, normalement, j'essaie d'éviter ces affaires-là, mais je me suis dit, bon, j'étais comme à la moitié de mes recherches, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Soit je discarte cette affaire-là parce qu'il n'y a pas de photo, ou je continue dans les recherches. Puis je me suis dit, écoute, pas parce que c'est une affaire des années 70, ben, c'est souvent ça, là, des affaires vieilles, ils ont moins de photos. Pas parce que la victime a pas eu la chance d'avoir une photo d'elle quand elle est morte qu'on va la discarter, qu'on n'en parlera pas, qu'on lui rendra pas hommage en quelque sorte, et ça reste une affaire irrésolue. Fait que c'est quand même important qu'on en parle. Fait que j'ai décidé de continuer dans mes recherches et de vous partager cette affaire-là aujourd'hui. Il y a un aspect de cette affaire-là qui m'a beaucoup intéressée et ben c'est pour ça que je voulais vous la partager. Là. Il y a une affaire là, bien mystérieuse, vous allez voir.
Écoutez le podcast Over and Out.
Donc, cette affaire prend place le 2 octobre 1970 dans l'État de l'Illinois, plus précisément à l'ouest de Chicago. Nous avons une jeune étudiante de 21 ans nommée Donna Doll, qui est un très beau nom, Donna Doll, qui disparaît dans une froide soirée d'automne. Donc, je vais parler un peu de Donna avant de parler de la soirée de sa disparition. Donc, Donna étudie à la NIU, donc Northern Illinois University. C'est l'une des meilleures de sa génération. Elle a gagné plusieurs prix et elle étudie le russe. Au moment que les événements ont lieu, elle accumule plusieurs crédits. Elle prend des cours de soir, des cours d'été. Pour faire le master. Son but est de devenir professeur de russe ou interprète traductrice, là, ce qui est quand même un peu inusité là, pour une jeune femme de vouloir apprendre le russe pour devenir professeur de russe si t'es pas russe. Mais en tout cas, c'est cool. Je trouve que ça lui donne une belle personnalité. Et c'est cool aussi d'avoir une fille dans les années 70 qui est autant carriériste. Je pense pas qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes à cette époque qui étudiaient à l'université, qui faisaient une maîtrise. Fait que, je sais pas, ça la rend encore plus intéressante. C'est pas une fille qu'on pourrait décrire comme wild. Elle est plus réservée, elle est super responsable, elle s'occupe de ses petits frères, petites sœurs, avant d'aller à l'école, bien sûr, avant qu'elle soit étudiante. Elle aidait beaucoup ses parents. De ce que j'ai lu dans sa description physique, c'est une belle jeune femme aux yeux bleus, aux cheveux blonds, et elle est faite quand même carrée, mais elle est très mince. Donna, elle a un petit ami qu'elle a rencontré l'été dernier, ça fait pas si longtemps qu'ils sont ensemble. Elle l'a rencontré quand elle prenait des cours d'été dans une autre université. Il s'appelle Charles Burkey. C'est pas sérieux parce que ça fait pas si longtemps, c'est quand même une relation à distance. Et Charles Burkey, il était marié. Il est tout récemment séparé de sa femme. Fait que Donna, elle n'a pas vraiment parlé de lui à ses parents. Elle en a parlé à ses amis, mais pas à ses parents parce que, bon, à cette époque, il y avait quand même des préjugés par rapport aux hommes mariés, séparés. Puis elle savait que ses parents, qui sont stricts, n'allaient pas approuver de cette relation. Fait qu'elle gardait cette relation quand même secrète. Donc revenons à la journée du 2 octobre 1970. Donna, elle travaillait à la bibliothèque de son école. C'était comme un emploi à temps partiel. Donc le 2 octobre, elle a fini son corps de travail, son shift, à 21h59. Donc elle s'est punchée out, elle s'est poinçonnée out, je sais pas comment dire autrement. Et elle avait comme plan de passer la soirée avec sa meilleure amie qui s'appelle aussi Donna. Donc ça fait un petit peu mélangeant. Donna, c'est sa meilleure amie. Ça faisait longtemps qu'elle s'était pas vue parce que Donna, elle avait fait ses cours d'été. Bon, elle avait passé son été à l'extérieur de la ville et Donna, sa meilleure amie, elle venait de se marier, donc elle ne se voyait pas beaucoup, mais Donna avait été demoiselle d'honneur à son mariage, c'était vraiment des grandes amies. Donc les filles s'étaient dit, bon, ce soir, on va se voir, on va se update sur nos vies, les deux filles étaient super excitées de se voir. Là, il faut se rappeler aussi que c'est bien avant l'époque des téléphones cellulaires, même des pagettes, donc on ne peut pas se rejoindre si on doit annuler, si... C'est quand même compliqué, la communication. Là. Donc, les filles étaient supposées se rencontrer à la bibliothèque où Donna travaillait. Mais là, quand Donna, l'amie, est venue chercher Donna Doll, Donna Doll était déjà partie. Ce qui était plutôt bizarre parce que les filles s'étaient vraiment donné rendez-vous. Mais là, Donna s'est pas trop inquiétée. Elle dit, bon, écoute, elle a peut-être oublié, elle a peut-être eu un empêchement. Tant pis, on va se reprendre, on va se parler plus tard. Mais là, l'affaire, c'est que cette soirée-là, Donna Doll n'est pas rentrée dans son dorm room, elle n'est pas rentrée chez elle. En fait, il n'y a personne qui a eu des nouvelles d'elle de tout le week-end. C'est le 4 octobre à 23h30 que la responsable du dorm room, donc c'était comme plus... c'était une maison de filles, là, c'est une grande maison avec plusieurs chambres, puis il y avait comme une maman du dorm qui s'occupait des filles, j'imagine, qu'elle faisait un peu à manger, elle... veillait à ce qu'il n'y ait pas de garçon qui entre dans le dorm. Vous voyez un peu le genre, comme... moi, je pense à Grease, là, quand j'entends ça, là, mais bon. Donc, c'est le 4 octobre, 23h30, que la responsable du dorm a signalé la disparition de Donna Doll, parce qu'elle dit, là, ça fait deux jours qu'elle n'est pas rentrée dans sa chambre, on n'a pas de nouvelles personnes, c'est inquiétant. Au début, ils se sont dit, bon, peut-être qu'elle est allée visiter son petit ami qui est à l'extérieur, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de nouvelles. Mais quand les enquêteurs ont fouillé sa chambre, ils ont dit, non, il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que tous ses vêtements étaient là, sa valise était là, et ses médicaments pour les allergies étaient dans sa chambre. Et apparemment, Donna Doll, à cette époque-là, elle était très allergique, elle avait comme un rhume des foins, elle était très très allergique, elle quittait pas la maison sans ses médicaments pour les allergies, et il était dans sa chambre, ainsi qu'un chèque non déposé, donc son chèque de la bibliothèque, donc elle devait pas avoir d'argent sur elle. Donc à partir de ce moment-là, ses amis, sa famille, et même son petit ami Charles Burkey ont organisé des battues dans le secteur pour la retrouver. Sa disparition était quand même médiatique. Il y avait des articles, des colonnes dans les journaux locaux. La disparition de Donna Doll, aidez-nous à la retrouver. Ce qui est effrayant aussi dans cette histoire, c'est que pendant les recherches, les battues, la famille de Donna Doll recevait des appels mystérieux d'une personne qui disait « Je sais où est votre fille. » Mais ça, c'est quand même fréquent dans des histoires de disparition. En fait, toutes les familles avec qui je parle, des familles de personnes disparues, me disent toutes la même affaire. Ah, oh, c'est tellement fréquent, on reçoit toujours des appels. Je sais où votre fils, je sais où votre fille, je sais où votre sœur. Donnez-nous tant d'argent, puis je vais vous le dire. Par contre, dans le cas de Donna, on parlait même pas d'argent. C'était pas un escroc qui voulait avoir de l'argent en échange. Non, 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 c'était juste « je sais où votre fille ». Mais là, le 11 octobre, on a trouvé un corps. Il était environ 20h30 quand il y a trois adolescents qui étaient en route vers une fête. Et eux, ils avaient comme caché de la bière dans un champ là, la semaine précédente. Et là, ils allaient chercher leur bière avant le party. Et ils ont aperçu une silhouette dans un champ de maïs en dessous d'un arbre. Et le gars des trois, le gars, il a vu la silhouette puis il a tout de suite su c'était quoi. Et il a dit aux deux autres filles, retourner dans la voiture immédiatement. Les trois ont conduit au poste de police pour dire qu'ils venaient de voir un corps. Évidemment, vous comprendrez que c'est le corps de Donna Dahl qui a été retrouvé dans un champ de maïs. Apparemment que ce champ de maïs-là était comme reconnu pour un endroit de fête. Beaucoup de jeunes qui allaient faire le party dans ce champ-là. Donna était toute habillée. Par contre, très étrange, elle avait un manteau, mais c'était pas le dernier manteau dans lequel on l'a vu. On l'a vu dans un manteau genre de style trench coat. Ce manteau-là, on l'a jamais retrouvé. Elle portait un manteau différent quand on l'a retrouvé. Et on n'a jamais retrouvé ses chaussures non plus. Elle était comme nu-pied. Ainsi que son sac à main n'a jamais été retrouvé non plus. C'est son petit ami Charles Burkey qui a identifié le corps. Ça aussi, je trouve ça quand même étrange. Pourquoi c'est pas un membre de la famille? Pourquoi c'est pas une amie? Parce que Charles Burkey, je vous rappelle que la relation était quand même secrète et très récente. Pourquoi c'est lui qui a identifié le corps, ça je comprends rien. Moi je me dis, bon, à cette époque-là, peut-être que la police a dit, non, non, ça peut pas être un membre de la famille, surtu pas des femmes, ça va les traumatiser, tu sais, vous comprenez, la police à l'époque, c'était peut-être un peu sexiste. Mais tu sais, le père de Donna, il aurait pu dire, c'est moi qui vais le faire, tu sais. Ou un frère, tu sais, je sais qu'elle avait un frère plus jeune par contre, mais en tout cas, un oncle, tu sais, si les policiers disent, OK, il faut que ça soit un homme, ou s'ils disent, on veut pas que ça soit un membre de la famille immédiate, mais normalement, je pense que ça doit être un membre de la famille immédiate, un membre, genre, quelqu'un qui a le même sang, ou un... En tout cas, je trouve ça bizarre que ça soit Charles Burkey, alors qu'il se fréquentait depuis seulement l'été, là. Bref. Mais là, je vais vous parler de l'état du corps, qui est, selon moi, le plus étrange. Et c'est un peu la raison pourquoi je me suis intéressée à ce cas-là, puis pourquoi je voulais le partager. Vous allez voir. Puis j'en ai même parlé à des gens, à des amis, puis en tout cas, on a eu des théories. On peut en parler, puis j'ai hâte de voir vos théories à vous. Bon, premièrement, il n'y a aucun signe de violence sur le corps de Donna, pas de signe d'agression sexuelle, pas de signe de violence, pas d'égratignure, elle s'est pas débattue. Dans l'article que j'ai lu, je vais mettre les sources dans la barre de description, c'était dit que probablement que Donna connaissait son assassin. Mais je sais même pas s'il s'agit d'un meurtre rendu là. Mais il n'y a aucun signe de violence, OK? Le pathologiste aussi dit qu'il a trouvé des substances mystérieuses dans le corps de Donna. Le corps de Donna, il était partiellement décomposé. Ça faisait 9-10 jours qu'elle était morte. Un peu décomposée, mais là, c'est au mois d'octobre, il fait quand même frais. Pas totalement décomposé, mais il y avait des substances mystérieuses. C'est quoi? On ne sait pas. Mais là, on va y revenir un peu aussi au coroner. Là, c'est pas un professionnel dans ce cas-ci. Ces substances-là n'ont jamais été identifiées ni expliquées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on refaisait une autopsie, on pourrait les identifier. Là. Aussi, Donna est morte par suffocation. Donc, elle s'est étouffée. Mais on n'a jamais retrouvé de fibres de substances externes dans ses voies respiratoires ni dans ses poumons. Normalement, si quelqu'un l'avait étouffé comme avec un oreiller ou avec un tissu, on retrouverait ces fibres justement dans ses voies respiratoires. Mais là, ça, on ne l'a pas retrouvé. À moins qu'on l'ait étouffé comme avec un sac de plastique. Bon, mais elle est morte comme justement par suffocation. Mais là, le plus weird, c'est ça que genre, c'est ça le plus bizarre là, qui m'amène, qui me fait me questionner beaucoup, c'est qu'on a retrouvé 5 à 6 livres de pommes de terre, de patates, dans son estomac. Donc avant de mourir, Donna aurait ingéré 5 à 6 livres de patates. Qui est, il a fallu que je m'informe, là, je cuisine pas beaucoup, mais 5 à 6 livres de patates, c'est 7 grosses patates ou 10 moyennes patates. Ce qui est beaucoup pour une jeune femme de 21 ans, était pas très grosse non plus. C'est énorme de manger ça, là, quand même. Là. En one sitting, là, je mangeais ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça dépend comment qu'elle le mangeait. Aussi, tu sais, quand on pense 7 grosses patates, on pense... Elle a peut-être pas mangé de même, là. Elle a peut-être mangé des patates pilées, elle a peut-être mangé des frites, peut-être mangé des hash browns, elle a peut-être mangé de la salade de patates, tu sais, il y a plein... Tu sais, dans le fond, elle a pas juste... Elle a sûrement pas mangé des patates de même. Mais c'est étrange. Donc on va parler de ça un peu, là. Tu sais, pourquoi elle avait 5 à 6 livres de patates dans son corps? Donc, première hypothèse, peut-être qu'elle était boulimique. Ça, c'est mon hypothèse principale. Il faut se rappeler, dans les années 70, la boulimie, les troubles alimentaires, on n'en parlait pas. Tu sais, c'était pas vraiment connu. Je sais même pas s'il était au courant que ça existait. Fait que peut-être qu'elle, elle avait l'habitude de binge eating, là, elle mangeait beaucoup. Puis il y en a là, qui vont manger comme une chose en énorme quantité. Fait que peut-être c'est ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle est allée dans le champ de maïs. Elle a juste genre mangé beaucoup de patates. Puis j'ai lu un peu sur Reddit par rapport à ce cas-là, puis il y en a qui disaient, tu sais, moi, là, quand j'ai eu des troubles alimentaires, puis quand j'avais des cravings, là, c'était souvent des aliments comme ça, vraiment comme beaucoup de carbs, là, puis je vais manger beaucoup de patates, mettons, je vais manger beaucoup de frites. Fait que peut-être qu'elle a eu genre un craving, justement, elle est allée dans le champ de maïs, elle a mangé énormément, et peut-être qu'elle a comme vomi, puis elle s'est étouffée dans son vomi. Ça expliquerait ça. Mais ça expliquerait pas vraiment pourquoi ses chaussures manquaient. Bon, il manque des petits détails ici et là. Et aussi, j'ai lu que quand tu manges des patates crues, il y a de la solanine. Et tu peux comme mourir, là. Genre, si t'en manges trop, tu peux mourir comme empoisonné. Fait que ça aurait de l'allure, en tout cas. Elle est morte, puis elle avait beaucoup de patates dans son corps. Est-ce qu'elle a mangé des patates crues? Et une autre théorie, c'est est-ce que quelqu'un l'a forcé à manger trop de patates? Peut-être que... Il y a un tueur qui avait un fétiche, genre fétichisme, vraiment bizarre. Ben, pas bizarre, je veux pas juger, mais un fétichisme particulier. Puis il a dit, OK, assois-toi devant moi, je vais te regarder manger. Mange. Mais en même temps, tu sais, ça, on voit ça dans les films, genre, mais ça, dans Seven, là, genre le film, en tout cas, on voit ça dans les films, mais est-ce que ça existe vraiment dans la vraie vie? Est-ce que c'est très commun? Je le sais pas, tu sais. Aussi, ce que j'ai lu, c'est que le coroner du comté, il avait pas fait des études là-dedans. C'est pas... à cette époque-là, mais et même encore aujourd'hui, dans des endroits, des villages aux États-Unis, c'est pas des gens qui ont étudié là-dedans, c'est des gens... par exemple, lui ici, c'est un directeur funéraire, genre. Fait qu'il a pas fait d'études de médecine pour être coroner. Souvent, c'est des gens qui sont élus pour être coroner. Fait que c'était vraiment pas un professionnel, c'était loin d'être un professionnel. Fait qu'il allait comme approximativement, bon, il y a des matières inconnues dans son système. Mais si on refaisait son autopsie aujourd'hui, je pense qu'on saurait de quoi elle est morte. Donc on va continuer. On a un corps. Maintenant, ça nous prend un meurtrier. Bien sûr, le suspect numéro un, comme c'est le cas dans ces affaires-là, c'est souvent le conjoint. Donc, Charles Burkey. En plus, ici, on aurait un motif parce qu'apparemment que Donna venait tout juste de rompre avec son petit ami et peut-être que ça le fâchait beaucoup. Et on pourrait dire, ben non, t'sais, il est pas suspect, c'est lui qui a organisé les battues, c'est lui qui a identifié le corps, il est pas suspect, tu sais. Mais en fait, il avait cherché dans le champ de maïs, il avait organisé une battue dans le champ de maïs, mais il s'était arrêté comme juste quelques mètres avant le corps de Donna. Je sais pas si c'était voulu, peut-être pas, là, tu sais, je veux rien dire, je veux pas accuser personne, mais c'est louche. Et selon la meilleure amie de Donna, Charles était super possessif, elle dit que c'était un trou de cul, elle l'aimait pas du tout, et elle dit que Donna, elle avait une intelligence supérieure à Charles, et que ça le rendait plutôt insécure. Et en fait, apparemment que la police était sûre à 99% que c'était lui le coupable, mais il y avait aucune preuve pour l'arrêter, donc encore aujourd'hui, cet homme est libre comme l'air. Et quand lui a su qu'il était comme le principal suspect, il aurait tenté de se suicider en s'ouvrant les veines. Et il s'est ramassé à l'hôpital parce que ça n'a pas fonctionné. Et en sortant de l'hôpital, il s'est pris un avocat. En même temps, d'un autre côté, il s'est porté volontaire pour passer le polygraphe. Il a toujours répondu aux questions des policiers. Mais en même temps, je suis quand même partagée dans mon opinion. Tu sais, souvent les coupables ne veulent pas passer le polygraphe. Ils vont pas répondre aux questions des policiers. Ils vont se prendre un avocat dès le départ. Après ça, les policiers voulaient tellement résoudre l'affaire, sont allés consulter une médium de Long Island. C'est Teresa Caputo, la Long Island Medium. Et elle, elle sentait que la mort de Donna était partiellement auto-infligée. Comme si elle se l'était faite elle-même, mais qu'il y avait une autre personne impliquée et que ça impliquait aussi des produits chimiques. Bon, ça l'aide pas vraiment parce que bon, tu sais, on est rendu en 2021 et c'est toujours irrésolu. Donc ça, c'est l'affaire de la mort de Donna Doll. Je voulais vous la partager. Je trouvais ça intéressant, surtout l'aspect des patates, là. Ça m'a vraiment troublée. C'est mystérieux, c'est différent. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à Donna et élaborez avec vos théories. J'aime ça vous lire. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez surtout pas de garder le hiver. Over and out.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.